Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre série d'émissions dédiées au Père de l'Église. Il y a un peu plus de deux mois, nous nous étions intéressés à Saint-Irénée de Lyon. Ce numéro va lui être consacré à Saint-Ignace d'Antioche. Et pour prolonger cette série, j'ai invité de nouveau celui qui m'accompagne depuis que nous l'avons lancé, le père Édouard d'Ivry, frère dominicain et docteur en théologie. C'est avec lui que nous allons partir à la découverte de Saint Ignace d'Antioche, de sa vie, de ses écrits et de son enseignement. Bienvenue frère Édouard, merci d'être toujours fidèle à Vivante Église et en particulier à cette série qui, je le sais, vous tient beaucoup à cœur.
Bonjour Éric, bonjour à tous les auditeurs.
Alors à ce propos, on peut peut-être rappeler pourquoi il nous a semblé important de dédier une série au Père de l'Église. En quoi sont-ils encore des références fondamentales pour les théologiens et même pour l'ensemble des chrétiens au XXIe siècle?
Les Pères de l'Église sont les premiers interprètes de la parole de Dieu. Et ils nous donnent en quelque sorte l'esprit de la tradition. Comment finalement cette parole de Dieu qui est écrite a été transmise par des cœurs vivants, palpables. Vous savez que nous ne sommes pas du tout une religion du livre, comme parfois certains mauvais journalistes nous décrivent. Nous sommes religion de la parole vivante. Et du coup, il faut des gens vivants, des interprètes vivants. Et on peut dire que les pères vivent dans le cœur de l'Église. Ils sont pour nous une référence permanente. Et le Concile Vatican II recommande, bien sûr, l'étude de la parole de Dieu dans ses manuscrits écrits, bien sûr, mais aussi les pères de l'Église et les grands théologiens en particulier. Deux fois, le Concile Vatican II nous demande de nous mettre à l'école du maître d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, dont nous sommes encore dans la série des centenaires.
Et donc aujourd'hui, c'est au tour de saint Ignace d'Antioche. Comme pour saint Irénée, nous allons d'abord le resituer dans le temps et dans l'espace. Quand et où est-il né? Quels sont les éléments biographiques qui sont à notre disposition en ce qui le concerne?
Saint Ignace vient de la région d'Antioche. Actuellement, donc c'est en Turquie, Antakya. Vous savez que la France avait la responsabilité de cette région Alexandrette suite à la Première Guerre mondiale et malheureusement nous l'avons trop vite lâché à la Turquie donc naissante et donc ce petit îlot chrétien a fondu comme neige au soleil évidemment depuis l'arrivée des Turcs. Il n'y a presque plus de chrétiens qui vivent en Antakya. On voit encore une petite église sur la hauteur dédiée à Saint-Pierre, puisque Saint-Pierre en a été en quelque sorte le premier évêque. Ayant fui les persécutions juives des premiers temps, il s'est installé à Antioche avant de monter à Rome où il subira le martyre de l'Empire romain. Donc il y a une succession des premiers évêques à Antioche que Irénée nous rapporte dans son série d'évêques des premiers temps. Et nous avons donc Pierre à Antioche, un successeur, et Ignace juste après. Donc c'est en quelque sorte le troisième successeur de ce siège d'Antioche, donc deuxième successeur après Pierre. Donc une image tout à fait remarquable, je dirais, dans la proximité de cette succession apostolique, comme on l'appelle, la succession épiscopale, les évêques se transmettant en quelque sorte le flambeau de la tradition. Et saint Ignace dit d'Antioche mourra lui aussi comme son modèle, saint Pierre, à Rome, puisqu'il sera conduit sous Trajan dans le cirque où étaient condamnés les chrétiens et il mourra martyr, dévoré par les bêtes aux alentours de 107, mais la date est un peu flexible parce qu'on n'a pas gardé, hélas, de précision historique très ferme. La seule chose que nous savons, c'est que c'était sous Trajan. Trajan, donc, finit son temps d'empereur en 117. Donc, c'est la date ultime où Ignace aurait pu mourir, mais certains estiment que sa mort a pu avoir lieu en 115. La date traditionnelle est plutôt 107. Donc, né à Antioche et mort à Rome, et étant un père dit apostolique, puisqu'il a vécu encore dans l'aura des premiers apôtres, même s'il ne les a pas connus physiquement, il aurait pu les connaître. Il aurait pu connaître Paul, il aurait pu connaître Pierre, il aurait pu connaître Jean. Donc c'est assez émouvant de penser cette première génération de chrétiens qui est décrite d'ailleurs dans les Actes des Apôtres massivement, puisqu'on dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les fidèles de la voie, V-O-I-E, c'est-à-dire la nouvelle voie que Jésus a instaurée dans le judaïsme, cette nouvelle voie va prendre le nom donc de chrétien. Et le christianisme va être dans le fond la conséquence de ce mot chrétien, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Christ. Christ, rappelons-le, veut dire le Messie. Donc ceux qui appartiennent au Messie, Amashiach en hébreu, Christos en grec, Messie en latin, et nous sommes donc tributaires de cette appartenance, comme disait un grand pape, catholique est mon prénom, chrétien est mon nom de famille. Magnifique.
Oui, donc né vers 35, a priori, dans la province de Syrie, à l'époque, Saint-Ignace. Et donc, troisième évêque d'Antioche, il faut qu'on rappelle quand même ce qu'était Antioche à l'époque, parce que les grands centres chrétiens, bon, il y avait Rome, bien sûr, il y avait Alexandrie, mais Antioche, c'était la plus grande ville des trois, en nombre d'habitants en tout cas.
En nombre d'habitants, certainement, et on peut dire que le christianisme d'emblée a eu une magnifique, je dirais, envolée en extension, puisqu'il y a eu des assemblées importantes à Antioche. Là, Barnabé a rayonné, c'est d'Antioche qu'il est allé chercher Saul à Tarse pour l'emmener dans ses expéditions sous le nom désormais de Paul et qu'il va avec lui faire ses admirables voyages apostoliques, d'abord à Chypre, puis dans le bas de l'Asie mineure, premier voyage apostolique. Deuxième voyage apostolique, c'est Paul seul qui va le réaliser, mais toujours à partir d'Antioche. C'est à partir d'Antioche que tout se passe. Jérusalem étant un peu encore, si vous voulez, le carrefour du Sanhédrin, des grands prêtres qui se sont opposés à Jésus, qui l'ont condamné à mort, donc un lieu plus dangereux d'une certaine manière pour le christianisme naissant, puisque jusqu'à Bar Corba, les Juifs vont persécuter les chrétiens. Il y aura quand même 100 ans entre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, 100 ans de persécution juive, et puis sur ce, la persécution romaine qui va en quelque sorte doubler la tension autour des chrétiens, puisqu'il y aura 300 ans de persécution païenne. Donc le christianisme a beaucoup souffert dans ses premiers temps et Antioche est de ce point de vue-là un lieu remarquable avec Alexandrie et Rome, les trois grandes métropoles d'ailleurs dont parle le Concile de Nicée. Nous sommes en 2025, on fête les 1700 ans du Concile de Nicée, hein, 325-2025, eh bien, Nicée ne parle que de ces trois métropoles, c'est-à-dire Rome, la première cité, comme étant là où Pierre et Paul ont vécu leur martyre, Antioche et Alexandrie. Donc, ce sont ces trois métropoles qui forment, si vous voulez, le canevas initial de l'autorité dans l'Église, à tel point que tout problème doit remonter à ces trois sièges. Ce sont ces trois sièges qui sont pétriniens. Pourquoi ? Parce que Pierre a d'abord siégé à Antioche avant d'aller à Rome, et Alexandrie, c'est son secrétaire Marc qui va évangéliser Alexandrie. Donc c'est du pétrinien. Tout est pétrinien dans les premiers temps. C'est pour cela qu'il y a une primauté de Saint-Pierre, d'ailleurs qui est très bien marquée par Saint-Ignace, puisqu'il parle avec admiration de cette église de Rome en disant qu'elle préside à la charité.
C'est aussi à Antioche, je crois, que le terme chrétien va naître, oui, à l'époque où Pierre était évêque.
Alors oui, c'est là où dans les Actes des Apôtres, alors Pierre est peut-être encore à Jérusalem quand le mot même naît, hein, Christos donc, a donné le mot chrétien, ceux qui sont au Christ. Et c'est effectivement les Actes des Apôtres qui citent cette nouveauté pour nous désigner. Nous sommes donc, le nom est scripturaire, comme le nom universel est là, qui apparaît pour la première fois dans les écrits d'Ignace d'Antioche. Catholique, c'est Ignace d'Antioche à qui nous le devons.
Pour revenir à Ignace, justement, on peut dire que c'est un des premiers convertis au christianisme. Et il fait partie de la deuxième génération des pères de l'Église, c'est-à-dire qu'il a reçu plus ou moins directement, l'enseignement des apôtres, en particulier celui de Pierre, mais aussi celui de Saint Jean apparemment.
Alors Saint Jean et Saint Paul, il est très inspiré par Saint Paul. Dans ses lettres, on voit bien que Il a l'élan de saint Paul, la générosité de saint Paul. On peut dire qu'il a quelque chose qui même l'apparente fortement à ce grand élan d'aller vers les païens, d'aller les évangéliser, de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne cite pratiquement pas l'Ancien Testament. C'est quand même assez frappant, voyez. On sent que ses racines sont directement dans le Nouveau Testament et il a quelques petites piques, justement, contre la communauté juive qui persécute les chrétiens et il a un doute pour ceux des chrétiens qui veulent encore, comme on dit, judaïser. C'est lui qui utilise l'expression judaïser, c'est-à-dire garder les vieilles formes, dans le fond, de traditions issues de la première alliance, comme le respect alimentaire, comme le respect du sabbat, comme les pleines lunes, les fêtes de pleine lune, les fêtes de Pessah, de Pâques, etc. Tout ça, il dit, mais c'est fini, il faut renouveler les choses. Maintenant, tout est nouveau en Jésus-Christ. Il pousse, si vous voulez, un peu la séparation, en quelque sorte, ou la distinction. Il a bien fallu se distinguer des Juifs. Il est un des moteurs pour que cette distinction soit plus nette, plus franche, je dirais, par rapport au premier temps, où il pouvait y avoir une certaine errance, je dirais. Il y avait des chrétiens, on voit dans les Actes des Apôtres, qui vont prier au temple avant que le temple n'ait été détruit par les armées impériales romaines. Eh bien, voilà, il y avait encore un certain va-et-vient. Eh bien, à partir d'Ignace d'Antioche, on peut dire que ce va-et-vient cesse.
On le compare effectivement assez souvent à saint Paul, à qui il ressemblerait, bon, pour son tempérament. Je rappelle que Ignace, ça vient d'Ignis, le feu.
Le feu, exactement.
Le feu. Ouais, ouais. Mais il y a aussi le fait qu'il a laissé des lettres.
Oui.
Des lettres aux églises,
des lettres,
comme saint Paul. Alors, il y en a sept.
Effectivement. Alors, il y a deux temps, donc, au cours de sa captivité, quand il a été condamné à mort, il a d'abord eu un temps à Smyrne, où le bateau qui l'a conduit d'Antioche a fait escale à Smyrne. Et vous savez, c'était long, les escales de l'époque. On le voit bien dans les Actes des Apôtres pour Paul. Il fallait refaire le ravitaillement, parfois réparer le bateau qui avait quelques voies d'eau, peut-être affréter des voiles, etc. Quoi, vous voyez, donc c'était quelque chose qui n'était pas évident. Et donc à Smyrne, qui est actuellement donc une ville bien connue de la Turquie, hein, on a d'ailleurs encore les reliques, j'y suis passé, on a les reliques encore de Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Donc il s'adresse à des églises qui sont plus au sud, Éphèse, Magnésie, Thrale, et il envoie déjà une lettre à Rome, plus là où est sa destination, pour les avertir qu'il arrive. Mais d'une manière étonnante, on pourra le reprendre dans vos questions, cher Éric, mais il veut surtout les empêcher d'agir en sa faveur. C'est quand même assez extraordinaire.
Oui, alors ça, on va y revenir, effectivement.
On va y revenir. Hein. Donc surtout, n'intervenez pas à mon sujet. Hein. Laissez-moi vivre ma vie. C'est assez extraordinaire, cette chose. Alors, dans un deuxième temps, le bateau va aller un peu plus au nord, va quitter Smyrne, Izmir, de la Turquie actuellement, et il va s'arrêter à Troade. C'est le Troade de l'Antiquité, vous savez, de cette époque donc très ancienne. Et de Troade, donc, il va envoyer une nouvelle série de lettres, d'abord à son cher Polycarpe, qu'il a laissé à Smyrne, bien sûr, et puis à Philadelphie, et aussi à l'église de Smyrne, plus générale, sans être particulièrement seulement adressé à Polycarpe. Et donc, ces sept lettres forment un petit trésor, si vous voulez, qui a été très bien présenté par un frère dominicain, le frère Thomas Camelot, qui a publié ça dans le numéro 10 de Sources chrétiennes. Si vous voulez avoir une introduction à saint Ignace d'Antioche, le mieux, c'est de lire l'introduction de Sources chrétiennes, numéro 10, du père Thomas Camelot. C'est un frère que je n'ai pas connu, je suis trop jeune dans l'ordre, et qui a fait paraître ça dès 1969, en deuxième édition. La première édition étant souvent d'une seule langue, et la deuxième édition étant grec-français, puisque évidemment, il faut le dire, Ignace d'Antioche écrit en grec, comme saint Paul écrivait en grec. C'est une génération déjà hellénisée qui ouvre, je dirais, le christianisme à l'universel. C'est une langue universelle, le grec. Il y a déjà des heures de gloire, puisque la Septante est en grec, c'est la traduction hébraïque vers le grec. Et du coup, il y a cette possibilité de parler dans tout le bassin méditerranéen, puisque on parle partout grec. C'est ça qu'il faut se rendre compte. À Rome, on parle grec. Hein, jusqu'au IVe siècle, la messe est dite en grec. Alors, quand on vous dit, par exemple, que la messe de toujours, celle de Saint Pie V en latin, bah, non, il y a plus ancien. Hein, les messes ont d'abord été célébrées, probablement en langue hébraïque à Jérusalem et en Galilée, et puis très vite en grec, hein, qui est vraiment la langue universelle par excellence. On en a encore des traces, d'ailleurs, dans le Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tous ces mots qui nous viennent directement du grec nous montrent qu'il y a un enracinement grec très, très ancien, et Ignace est un très beau témoin.
Alors, nous allons parler de l'enseignement que nous a laissé saint Ignace d'Antioche en seconde partie d'émission, mais rapidement, ces sept lettres, quels sont les sujets qu'elles abordent? Quels sont les thèmes qu'elles traitent?
Alors, essentiellement, pour ce qui concerne les sept lettres, donc, on peut distinguer six d'entre elles en dehors de l'épître aux Romains, six d'entre elles qui aident les chefs de ces communautés chrétiennes à résister déjà au premier mouvement, je dirais, de tentation de vouloir éloigner le christianisme de ses bases d'origine. À travers quoi ? Ben, le docétisme et très vite le gnosticisme. Qu'est-ce que c'est que le docétisme ? C'est une tendance à dire que le Christ aurait fait semblant
de souffrir sur la croix.
De souffrir sur la croix et même faire semblant de s'incarner. Si vous voulez, comme modèle, pensez au livre de Tobie où Raphaël accompagne Tobie et puis à la fin il dit « Attention, en fait, j'ai fait semblant d'être avec toi, mais en fait, je suis un ange qui voit la face de Dieu, donc tu peux me laisser filer. J'ai donné une apparence humaine. » Et certains ont cru que Jésus avait fait pareil. C'est-à-dire qu'il avait fait une apparence humaine et que ça n'était pas digne d'un fils de Dieu, dans le fond, d'avoir souffert, d'avoir vécu comme un enfant, etc., etc. Et que tout cela était des apparences, un monde d'apparences. Et donc le docétisme, très vite, s'est transformé après en gnosticisme. Et le gnosticisme, c'est une autre tendance extrêmement grave, puisque ça va déboucher sur le manichéisme où il y a un dieu bon, un dieu mauvais. On s'éloigne complètement là des racines de la première alliance, de l'unicité de Dieu créateur, de l'unicité donc qui n'évite pas la révélation de l'intimité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dans la Trinité. Mais il y a un éloignement de la Trinité, un éloignement du dépôt révélé. Et il y a les premiers soubresauts, vous voyez, le démon est très vite rôde et attaque, comme dit l'épître de Saint-Pierre, que certainement Ignace a dû lire, hein. Le démon est comme un lion rôdant, cherchant qui dévorer. Eh bien, c'est cette grave attaque que subissent ces premières communautés, donc contre lesquelles Ignace s'élève et donne des textes extrêmement précis. Par exemple, il a pratiquement les mots de la vérité catholique, même s'il n'en a pas encore le vocabulaire. Par exemple, je vous lis un passage tout à fait excellent dans lequel il dit qu'il n'y a qu'un seul médecin, après avoir dit que les morsures sont difficiles à guérir de ces hommes qui tournent autour de ces communautés chrétiennes pour les éloigner du dépôt de la foi, il n'y a qu'un seul médecin, charnel et spirituel, engendré et inengendré, venu en chair Dieu, en la mort vie véritable, né de Marie et né de Dieu, d'abord passible et maintenant impassible, Jésus-Christ notre Seigneur. Et pratiquement, il dit déjà le concile de Chalcédoine, c'est extraordinaire. Un seul et le même, comme nous avions rencontré chez saint Irénée. Une seule personne, mais de nature, passible et impassible. C'est extraordinaire, il y a déjà le vocabulaire de Chalcédoine en 451 qui est déjà exprimé. Donc c'est vraiment un grand, grand génie, je dirais, de l'expression du christianisme. Et on respire catholique et on ne peut que recommander sa lecture qui fait du bien à toutes les âmes. Je pense que beaucoup de déviances de nos jours n'auraient pas eu lieu si on avait été davantage fidèle à saint Ignace d'Antioche,
qui a donc défendu l'orthodoxie chrétienne à travers ses lettres et combattu les hérésies naissantes. Bon, voilà pour cette première partie d'émission dédiée à la vie de saint Ignace d'Antioche et à une vue générale de ses écrits. Dans quelques minutes, nous allons évoquer plus précisément son enseignement, son influence et même on peut parler d'héritage hein, dans la théologie chrétienne et l'Église d'aujourd'hui. En attendant, je vous propose de faire une pause en musique en écoutant Erbarme dich, extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Il s'agit d'une version dirigée par Philippe Hervaig.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne avec le père Édouard d'Ivry, frère dominicain à Toulouse, docteur en théologie, et nous allons poursuivre cette émission consacrée aujourd'hui à saint Ignace d'Antioche, un père de l'Église parmi les plus anciens et parmi les plus importants. Si nous nous intéressons à lui, c'est parce qu'il a laissé un héritage sur le plan théologique, mais aussi dans le catéchisme et même l'organisation de l'Église catholique. Quels sont les principaux apports de son enseignement et que concernent ces apports? Quels sont les domaines concernés?
Un premier domaine que l'on peut donc souligner, outre ce que je disais sur l'épître, la lettre aux Éphésiens, le mot épître ou lettre a la même signification, comme nous le savons, et il y a l'identité de Jésus qui est très soulignée dans ce qu'il donne. Par exemple, dans sa lettre aux Magnésiens, il parle d'un seul esprit, une seule espérance, un seul autel, l'unique Jésus-Christ, une seule supplication. Il insiste beaucoup sur l'unité de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et uni au Père. Et ça, c'est la première chose au niveau trinitaire. Il a une vision très complète déjà du mystère que les chrétiens professent, unité de Jésus-Christ, esprit et chair, et unité avec le Père dans l'esprit. Et donc ça, c'est un fondement très fort. Et pour les pères, il faut bien comprendre que la conception virginale est pour eux le signe que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre, et non pas d'une manière seulement, je dirais, humaine, et qui laisserait la place à une sorte d'adoptionnisme. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un homme qui serait né d'une femme, et puis à un bon moment, il aurait été adopté par Dieu. Non, il y a dès le début de la vie du Christ un mystère qui se passe, c'est la naissance virginale, c'est-à-dire Jésus est né d'une vierge. Il n'y a pas eu semence masculine, pour être clair. Et nous avons par exemple à Smyrne, dans sa lettre à Smyrne, cette expression où il insiste sur le « véritablement » par rapport à tous les docètes, tous ceux qui avaient des expressions tout à fait lointaines de la foi. « Vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur, écrit-il, qui est véritablement de la race de David et selon la chair, fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge. » La Sainte Vierge est bien notée comme étant importante dans le contexte de la foi de ses origines. Il a été véritablement cloué pour nous dans sa chair sous Ponce Pilate. Il a véritablement souffert, comme il est aussi véritablement ressuscité. Pratiquement, on a les éléments de notre credo qui apparaissent là. Vous voyez, Ponce Pilate apparaît. Notre cher Ponce Pilate des Évangiles, vous voyez qu'on retrouve dans le credo. Eh bien, il est là et Saint Ignace le mentionne. Et il dira, le catéchisme le cite d'ailleurs dans le numéro 498, que le prince de ce monde, c'est le diable, a ignoré la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur, trois mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. C'est admirable cette citation de l'Épître aux Éphésiens qu'il nous a donnée, qui montre qu'il a perçu les origines du mystère d'une manière très forte. Alors, un deuxième point peut-être, c'est l'Église en elle-même, hein, puisque l'Église, c'est Jésus-Christ continué, c'est Jésus-Christ dans son extension à travers ses apôtres, à travers ses disciples que nous sommes, et il y a une grande compréhension de cet usage du mot catholique qui apparaît pour la première fois sous la plume donc, de Saint Ignace, qui veut dire universel, catholos, selon le tout. Le tout des chrétiens et le tout de Dieu qui s'unit, comme l'époux à l'épouse, selon l'expression de l'Apocalypse. L'Église est catholique, donc, parce que là où est le Christ, dit Saint Ignace d'Antioche, là est l'Église catholique. Il y a une correspondance partout entre le Christ et l'Église catholique. Et pour nous, c'est très important cette expression, puisque nous sommes la prolongation de cette Église catholique, hein, l'Église prolongée, continuée depuis les origines. Et il va avoir une attention toute particulière à l'Église de Rome, nous le disions précédemment, en parlant d'elle comme celle qui préside à la charité dans son Épître aux Romains. Et on pense que tout à fait à cette époque où Irénée lui-même disait « Avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. » Donc il y a déjà cette idée qu'à Rome, parce qu'il y a le témoignage de Pierre et de Paul, hein, qui ont été jusqu'au bout du martyr, eh bien, il y a une sécurité dans la tradition plus forte qu'ailleurs. Et puis, Saint Ignace va être aussi un très grand docteur du point de vue non seulement de l'union au Christ, mais de l'établissement, dans le fond, d'une Église visible. Alors, à l'origine, très probablement, c'était sous limitation des synagogues. Il y avait une communauté d'anciens avec un président de cette communauté d'anciens. Mais petit à petit, le christianisme prend ses marques et la hiérarchie catholique va prendre vraiment sa physionomie avec Saint Ignace d'Antioche. Il va apparaître la grande figure qui est déjà présente chez Saint Paul. C'est pour cela que nous disions que Ignace est très lié à Saint Paul, l'évêque, le prêtre et le diacre. Et on peut dire que Saint Ignace est les premières grandes expressions pour nous signifier l'importance donc du sacrement de l'ordre à trois degrés. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, hein, et le presbytérium, donc l'ensemble des prêtres, comme les apôtres. quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu, dit saint Ignace d'Antioche, toujours dans sa lettre à Smyrne, aux chrétiens de Smyrne, que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Voilà un avis ô combien important qui montre l'Église catholique telle qu'elle est encore vécue
aujourd'hui.
Hein, et tous ceux qui s'en sont éloignés se sont éloignés du modèle primitif. Hein, on peut le dire très nettement, il y a une rupture par rapport à cet engendrement qui s'est passé avec fidélité de génération en génération.
Alors, il y a un autre point important chez lui, donc, c'est la symbolique du dimanche. Place du dimanche.
La place du dimanche est tout à fait importante, puisque le mot qui apparaît déjà dans l'Apocalypse comme étant le premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité, prend tout son ampleur pour le passage du sabbat, qui était le jour réservé à Dieu dans la première alliance, au jour réservé à Dieu dans la nouvelle alliance, à cause de la résurrection du Christ. Et on a tout à fait cette mention dans l'épître aux Magnésiens de saint Ignace qui nous dit « Ceux qui vivaient selon l'ancien ordre des choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur. Hein, » donc c'est une citation de l'Apocalypse, « en lequel notre vie est bénie par lui et par sa mort. » Et par derrière, pourquoi ce jour du Seigneur? C'est pour célébrer l'Eucharistie. Et on peut dire que, alors là, nous avons un maître de l'Eucharistie. C'est peut-être le point sur lequel on a le plus besoin de nous référer à Saint-Ignace. C'est la grandeur de l'Eucharistie qu'il appelle remède d'immortalité. Pourquoi ? Parce que c'est en quelque sorte le viatique qui nous permet de passer de la terre vers le ciel. Médicament d'immortalité, on peut l'appeler aussi. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en a la charge. Donc il insiste beaucoup sur ce lien entre Eucharistie et épiscopat, et nous comprenons que nous recevons tous les biens de cette Eucharistie si nous restons dans cette communion pour recevoir les agia, les sancta, les choses saintes que le Christ nous a transmis dans le fond, cette nourriture qu'on appelle épiousios, suressentielle. D'ailleurs, notre grand traducteur de la Bible en latin, saint Jérôme, reprendra ça dans la traduction du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain, non pas quotidien, il le dit, suressentiel, épiousios, le pain de vie, le corps du Christ. Et saint Ignace a des expressions extrêmement fortes en disant que notre vie de foi, c'est communier au corps du Christ, et notre vie de charité, c'est communier au sang du Christ. Extraordinaire, vous voyez, la foi et la charité sont liées au corps et au sang du Christ. Il y a quelque chose à la fois de symbolique et en même temps de très réaliste. Les deux se tiennent.
Oui, parce qu'il parle de remède d'immortalité, pain des anges, pain du ciel, médicament d'immortalité, remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir. L'Eucharistie, c'est une guérison en quelque sorte.
Exactement, c'est une guérison parce que ça nous lave de nos péchés et surtout ça nous fait croître dans la grâce qui nous est donnée par le baptême. Le baptême, si vous voulez, c'est la semence, mais comme toute semence, elle a besoin d'eau, de soleil, elle a besoin de terre, et l'Eucharistie vient apporter tous ces éléments, si vous voulez, qui sont nécessaires à la croissance de cette petite semence jusqu'à déboucher sur l'éternité, la communion dans l'éternité du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Autre notion importante que nous a léguée saint Ignace d'Antioche, la notion de témoignage, le martyr, et le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Et là, il faut qu'on en parle parce qu'il y a des choses assez précises à évoquer à ce moment de la discussion.
Oui, alors c'est vrai que pour nous, ça peut paraître étonnant que quelqu'un se dirige vers le martyr avec autant de détermination. Normalement, on ne peut pas demander le martyr, on peut l'espérer en disant que c'est la forme maximale de témoignage, mais on ne doit pas faire en sorte de le provoquer. Or, saint Ignace a quand même des expressions très fortes à ses amis romains, à ses chrétiens romains. « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, c'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. » Donc il est auto-persuadé, par sans doute une grâce spéciale, qu'il va achever sa vie comme martyr. Ce sont des grâces exceptionnelles dans l'histoire de l'Église et qu'il ne faut pas chercher à vouloir matériellement imiter, hein, c'est clair. Et il dira que, dans le fond, son but, c'est vraiment de rejoindre Jésus-Christ. « Rien ne me servira des charmes du monde, ni des royaumes de ce siècle. Il est meilleur pour moi de mourir pour m'unir au Christ Jésus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous, lui que je veux, qui est ressuscité pour nous, mon enfantement approche. » C'est bien la résurrection, c'est bien le triomphe de la mort. Il ne faut pas mal comprendre, il n'y a aucun appétit doloriste, si vous voulez, dans ce que dit saint Ignace. C'est parce qu'il veut déboucher sur la résurrection avec le Christ. C'est comme saint Paul. Hein. Saint Paul a exactement des expressions semblables dans l'Épître aux Philippiens.
C'est pour ça que je disais qu'il fallait bien préciser les termes, hein, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension ou de mécompréhension. Parce que lui, il parle de mourir, il dit « c'est un gain ».
C'est un gain, exactement. Saint Paul.
Pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir est un gain.
Exactement. Il est bon pour moi de mourir dans le Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Un homme au sens l'homme achevé, comme Jésus qui est celui qui est le nouvel Adam, et rejoignant le nouvel Adam par participation, à ce moment-là, il est un homme au sens plein. Et il a cette expression extrêmement forte dans l'Épître aux Romains. « Il y a en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. » C'est-à-dire, il a vraiment reçu une mission du Saint-Esprit qui le pousse à aller vers cet accomplissement. Mais tout le monde, bien sûr, n'est pas appelé à un tel don de soi. On peut déjà se donner de bien des manières comme chrétien sans être obligé de passer par le martyre.
En tout cas, pour tous ceux qui se posent des questions sur le sens de la mort, pour un chrétien, il y a des réponses chez saint Ignace d'Antioche.
Ah, saint Ignace d'Antioche donne exactement le sens de la consommation de notre vie ici-bas et nous attache finalement à ne pas nous laisser prendre par les filets du malin, en particulier en matière, je dirais, érotique. Quand il dit « mon éros a été crucifié dans le Christ », eh bien, il veut dire par là qu'il faut se détacher des plaisirs terrestres, de certains plaisirs nocifs, même si le mariage est bon, il le dit explicitement. Il faut faire attention que, eh bien, il y ait des éléments qui puissent, dans le fond, conduire à un éloignement du Christ. Et je pense en particulier lorsqu'il décrit les arts mauvais, les kakotechnia, comme il dit, qui est la magie. Il y avait des courants qui étaient attirés par la magie dans le monde romain et dans le monde grec, et ils mettent en garde les chrétiens de ne pas se laisser prendre par ces tendances à vouloir tout mêler et finalement à tomber dans la magie. Il invite aussi les non-mariés à avoir une vie discrète qui est un charisme selon ce que saint Paul donne dans la première épître aux Corinthiens chapitre 7 ou les indications de Jésus dans Matthieu 19, 12. Et il dit donc qu'il faut faire attention que ce charisme reste discret pour que ceux qui se sont consacrés à Dieu ne s'enorgueillissent pas par rapport à ceux qui sont marié. Donc, il ne néglige absolument pas le mariage, mais au contraire, le met en valeur, demandant cependant le consensus du chef de la communauté pour les mariages, ce qui sera conservé par les églises assyriennes, les églises d'Orient, où on va toujours demander la bénédiction du prêtre, même avant les fiançailles. Voyez, on veut voir d'abord si la marque de Dieu est bien là, une bénédiction spéciale pour savoir si l'époux et l'épouse sont bien assortis.
Dans la catéchèse du pape Benoît XVI, il y a un chapitre consacré à saint Ignace d'Antioche. Quelle place lui donne-t-il ? J'ai l'impression qu'il lui donne vraiment une place prépondérante.
Oui, pour lui, c'est dans le fond le docteur de ce désir d'union à Dieu. Hein. Docteur de l'unité, le titre a été donné à saint Irénée, comme nous le savons, mais il y a un désir d'union très fort avec le Christ et de vie en lui. Et il dit très clairement que cela ressemble beaucoup au désir de saint Paul. Entièrement tendu vers l'union avec le Christ, celui de Jean concentré sur la vie en lui. Il y a les deux en lui. Il y a vraiment comme une, je dirais, une synthèse admirable qui est faite dans cet ensemble et d'un cœur, dans le fond, non divisé. Unité de Dieu, unité du Christ, unité de l'Église, unité des fidèles. Et dans la foi, dans la charité, par rapport auquel il n'y a rien de plus excellent que d'aimer l'unité. Hein, je trouve que c'est un bel exemple. Ne rien préférer à l'unité. Il n'y a rien de plus excellent que cette unité des chrétiens. Aimez-vous l'un l'autre avec un cœur non divisé. Mon esprit s'offre en sacrifice pour vous, dit saint Ignace, non seulement à présent, mais également lorsqu'il aura rejoint Dieu dans le Christ. Puissiez-vous être trouvés sans tâche. Nous parlons d'Ignace d'Antioche, bien sûr, à ne pas confondre avec son éponyme Ignace de Loyola, qui est beaucoup plus tardif au XVIe siècle.
Alors, pour terminer, aujourd'hui, dans les facultés de théologie, est-ce que saint Ignace d'Antioche est très étudié? Est-ce qu'on s'y réfère beaucoup dans l'enseignement théologique actuel?
Oui, grâce au catéchisme de l'Église catholique, qui est devenu de plus en plus une référence, et on peut dire que saint Ignace d'Antioche reste, en matière en particulier du mystère de l'Eucharistie, un des grands fondements sur le réalisme de l'Eucharistie et qu'il est cité aussi à propos du sacrement de l'ordre avec ses trois niveaux, épiscopat, presbytéra et diaconat. Et très souvent, quand on a à réfléchir sur ces trois niveaux du sacrement de l'ordre, on va chercher toujours les textes de saint Ignace d'Antioche, le premier, dans le fond, témoin à avoir écrit d'une manière concrète sur ces réalités de grâce.
Eh bien, nous allons terminer là-dessus. Merci beaucoup, frère Édouard. Merci de nous avoir fait découvrir la vie et l'enseignement de saint Ignace d'Antioche, père de l'Église, qui tient donc plus que jamais une place très importante dans la théologie chrétienne et au sein de l'Église en général. Nous nous reverrons dans quelques temps pour une nouvelle émission consacrée à un autre père de l'Église. Ce sera probablement Tertullien. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Christophe Aubry. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.